Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, bienvenue à l'émission Venez à Jésus. Encore une fois, nous recevons mon frère, mon ami, Junior Mambou, pour toujours parler sur le thème l'évangélisation. Bonjour Junior.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Avant de continuer, nous allons remettre le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur, afin qu'il nous guide, qu'il nous instruise, qu'il nous donne ses directives sur l'évangélisation. Prions. Père éternel, merci pour ta grâce, merci pour ton salut qui se trouve en Jésus-Christ. Merci pour ton serviteur Junior que nous recevons aujourd'hui à l'émission Venez à Jésus sur l'évangélisation. Seigneur, parle-nous, instruis-nous, guide-nous, instruis-nous, donne-nous tes directives par rapport à l'évangélisation. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Nous avons dit que l'évangélisation est quelque chose de prioritaire dans l'Église du Seigneur. Je voudrais que nous revenions sur Marc 16. Mmh. Marc 16, verset 15. L'ordre missionnaire de Jésus. Marc 16, verset 15. Mmh. Puis Jésus leur dit, allez par le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez dans le monde entier, que ce soit dans le monde francophone, dans le monde anglophone, espagnol, prêchez la bonne nouvelle. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le monde entier doit entendre parler de Jésus-Christ.
Mmh, oui, ça c'est vrai. Et nous l'avons dit que les moyens qui nous permettent de le faire, il y a le fait que nous devons propager ces bonnes nouvelles par la parole, en parlant, en se référant à la parole de Dieu et tout ça, exhortant, allant de lieu en lieu, mais aussi par les actes, par notre comportement, vu que nous sommes la lumière du monde. Et parlant des actes, ce qui me vient aussi à l'esprit, pour ne pas oublier cet aspect qui est aussi important, le fait de soutenir l'œuvre de Dieu avec nos moyens, avec ce que nous avons, l'argent, avec nos biens. Parlant de l'argent, c'est très important, parce qu'en fait, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Nous avons une espérance glorieuse et je voudrais lire d'abord ce texte pour donner une idée de ce que je voudrais dire par une espérance glorieuse.
Lequel ?
2 Corinthiens chapitre 4 verset 18.
2 Corinthiens 4 verset
18. Pour donner une meilleure idée, je commencerai au verset 16, 16 à 18. C'est le verset 18 qui m'intéresse.
C'est
je lis.
2 Corinthiens 4, verset 18.
Oui. Je lis. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Le verset 18. Parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Les choses visibles sont passagères, les invisibles éternelles.
Excuse-moi, tu as dit quel verset ?
2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. C'est le verset 18 qui m'intéresse ici. En fait, si je l'ai évoqué, c'est juste pour montrer l'élément le plus important qui nous intéresse. Nous avons une espérance glorieuse et nous nous battons pour cette espérance-là. Et même quand nous évangélisons par la parole, il y a quelque chose qui se répercute pour nous dans cet avenir glorieux qui nous attend. La même chose lorsque nous soutenons l'œuvre de Dieu avec l'argent. Ceci, ça c'est un exemple. Paul, par exemple, il construisait des tentes, il servait le Seigneur, mais dans son esprit, il savait qu'en les faisant, ça avait un impact. En faisant ce travail sur terre, ce travail d'évangéliser sur terre, il y avait un impact dans l'avenir par rapport à ce qu'il faisait. Et l'espérance de l'Église est tellement glorieuse que nous ne devons pas hésiter de donner ce que nous avons.
Totalement.
Voilà, c'est quelque chose de très important, mais malheureusement, tout le monde ne le comprend pas. Je voudrais lire un autre texte.
Si tu permets.
Oui, vas-y.
Si tu permets, en parlant de l'œuvre de Dieu, des finances avec l'évangélisation, il est important de remarquer que dans les évangiles, Jésus, qui est Dieu, mm-hmm. qui est venu vivre parmi nous et qui a été notre modèle dans le ministère, avait des partenaires.
Voilà.
Luc 8, si tu permets, oui. Luc 8. Lui, il est Dieu, c'est lui qui a créé l'or et l'argent.
Mm-hmm.
Mais dans Luc 8, on nous dit ceci, verset 1.
Mm-hmm.
Luc 1, Luc 8, de 1 à 3.
Ok.
Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien.
Amen.
Je tiens à préciser et à souligner, il y avait des hommes et des femmes qui assistaient Jésus avec leur bien.
Voilà.
Jésus, c'est le créateur du ciel et de la terre,
uh-huh.
du monde visible et invisible, des richesses qui sont dans ce monde et des richesses qui sont dans le ciel. Mais quand il est venu, en tant qu'homme, il avait besoin de partenaires dans son ministère. C'est comme pour dire, évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, c'est gratuit. Écouter la bonne nouvelle, c'est gratuit. Mais faire parvenir cette bonne nouvelle-là, il faut des moyens, il faut payer des frais, il faut de l'argent. Que l'on ne se trompe pas, sans argent, l'évangélisation est limitée. Parce qu'on peut évangéliser même sans argent. On peut évangéliser un secteur dans lequel on habite, une commune, une ville. Mais pour aller au-delà des frontières, pour avoir une plus grande influence, pour toucher un maximum d'hommes et de femmes, il faut de l'argent. Que l'on ne se trompe pas. L'argent n'est pas une création du diable. Il faut de l'argent. Il est dit, Jeanne, femme de Souza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient, qui assistaient Jésus avec leurs biens.
Dieu nous donnera de l'argent sur terre, chrétiens, où que nous puissions être pour ceux qui nous suivent. Mais nous devons savoir que quand Dieu nous donne cet argent, c'est aussi et surtout pour que nous l'investissions pour l'avancement du royaume. C'est très important. Et je vais lire un texte. Je suis dans Proverbe 17. Verset 16.
Proverbe 17.
Verset 16. La Bible dit ceci, je lis. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Une question. À acheter la sagesse? Mais il n'a point de sens. C'est-à-dire ici, ce verset montre clairement que l'argent doit nous aider à acheter la sagesse. En d'autres termes,
à acquérir,
voilà. Au fait, l'insensé à l'argent, l'insensé c'est l'image de cet homme qui n'aime pas la parole de Dieu, qui ne fait aucun cas de la parole, qui ne la lit pas, qui ne s'intéresse pas du tout à cela, mais celui qui lui aime la parole, c'est un sage devant Dieu. Voilà. Et lorsqu'on a l'argent, cet argent doit nous aider, hormis nous avons toujours besoin d'argent pour manger, pour se lancer dans des affaires et faire tout ce qu'on peut faire et tout ça, c'est bon. Mais cet argent doit aussi nous aider à connaître Dieu. Doit nous aider à apprendre sur Dieu. Doit nous aider à soutenir l'œuvre. Et pour Dieu, il considère que celui qui a l'argent et qui ne l'investit pas dans son œuvre, qui ne cherche pas au travers de l'argent à connaître Dieu, ben c'est un insensé.
Proverbe 16, verset 16. Proverbe 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent?
Amen.
Comme pour dire, avec l'argent, cherchez ce qu'il y a de meilleur et de profitable pour vous. De meilleur, de profitable pour vous. Tu sais, je suis des fois même étonné que certains chrétiens ont du mal à soutenir la Ligue pour la lecture de la Bible, leurs propres églises, les projets de leurs propres églises. Mais, enfin, on n'est pas en train de les critiquer, mais Ils ont l'argent pour s'acheter des smartphones, les téléphones les plus chers. Mais il n'a pas de Bible.
Voilà.
Il n'a pas de Bible. Alors que il est dit qu'il est préférable d'acquérir la sagesse que plutôt de posséder les richesses de ce monde. Et une fois, si je peux continuer, et une fois qu'on connaît qui est le Seigneur, qu'on connaît qui est Jésus-Christ, qu'on est sauvé, il faut encore répéter à certaines personnes, payez votre dîme, soutenez l'œuvre de Dieu, pour permettre à ce que l'évangélisation, aille dans le monde entier.
Et c'est très important, ce texte, combien acquérir la sagesse. En fait, la sagesse ici, nous faisons allusion seulement à la parole, car la sagesse, c'est la parole de Dieu. Et je m'appuie sur un texte de Deutéronome où Moïse dit dans Deutéronome 4, bon, c'est une parenthèse que j'ouvre, car il y a la sagesse des hommes, mais il y a la sagesse des dieux, mais la sagesse dont nous appuyons, sur laquelle le Seigneur dit qu'elle est plus précieuse que l'or, c'est la sagesse de l'homme. Je suis dans Deutéronome 4 au verset 6, je lis, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, c'est-à-dire la loi. La parole, car ce sera là votre sagesse
et votre intelligence au milieu des peuples.
Voilà.
Qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, c'est une grande nation et un peuple absolument sage
et intelligent. Voilà, un peuple sage et intelligent, pas parce qu'ils ont l'argent, pas parce qu'ils ont des biens, mais parce qu'ils observent la loi, la parole. Donc la sagesse dont nous parlons ici, c'est la sagesse qui est la parole de Dieu. Et ici, partant du texte que nous avons lu, Proverbe 16:16, l'acquérir, c'est préférable à l'argent.
Et écoute ce que dit le Proverbe 30, Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie.
Amen.
Et le sage s'empare des âmes. Qui est le sage? Le sage, c'est celui qui craint Dieu.
Okay.
Le sage, c'est celui qui veut gagner d'autres âmes.
Amen.
Christ.
Amen.
Le sage, c'est pas seulement celui qui donne les bonnes décisions, qui donne des bons conseils, qui marche avec Dieu. Mais le sage, c'est celui aussi qui gagne
Amen.
Des âmes à Christ.
Amen.
Et on peut gagner des âmes à Christ par son témoignage, par la prédication de la parole, par le financement de l'évangélisation.
Amen.
Il faut, nous devons soutenir les ministères, les églises, qui ont comme mission prioritaire d'évangéliser. Ce n'est pas le but étant de créer des extensions de leurs églises, non, mais de faire connaître la parole de Dieu. Figure-toi que il y a encore à peu près, paraît-il, il reste encore à peu près 2000 tribus dans le monde qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Comment est-ce que nous allons faire pour atteindre ces personnes si personne n'est envoyé? Dans Romains 10, Paul était vraiment, vraiment, vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Romains 10, verset 14.
Ok.
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Quatre questions. Comment est-ce que des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus vont invoquer Jésus? Mais pour qu'ils puissent invoquer Jésus, il faut qu'on leur parle de Jésus. Mais si personne n'est envoyé leur annoncer la bonne nouvelle, comment invoqueront-ils Jésus-Christ? Et maintenant, la question que je pourrais poser, ceux qu'on envoie, comment est-ce qu'on va les envoyer si nous ne finançons pas l'évangélisation? Si nous ne soutenons pas l'évangélisation, l'effort de l'évangélisation? La Bible que tu tiens dans la main a eu un prix.
Voilà.
C'est pas gratuit. Peut-être qu'on l'a reçu gratuitement, peut-être que tu l'as reçu gratuitement. Mais la production de ce livre que cette Bible a eu un coût. Il y a des gens qui ont financé ça. Il y a des gens qui ont financé cela. Et laisse-moi te dire, mon frère, que l'homme ou la femme qui soutient l'évangélisation n'est jamais, jamais, jamais perdant.
Amen. C'est très, très important ce que tu viens de relever par l'exemple de la Bible. Il y a eu des sacrifices énormes pour que la Bible nous parvienne aujourd'hui, en cette année 2012. S'il faut remonter le temps, dans le temps passé, il y a eu des personnes qui ont été exécutées, sommairement, tuées. Ils ont payé de leur prix, hein, dans des lieux où on ne devait pas avoir la Bible.
Mais
ils ont, voilà. Mais ils ont accepté le martyre pour que la Bible nous parvienne. Et à l'époque, ils ont même écrit, ils ont cherché.
Ils ont recopié à la main.
C'était pas facile, mais c'était important. Selon l'œil, on peut dire, mais ces messieurs-là sont partis comme ça, un peu en vain, comme ça. Ils ont travaillé sans rien obtenir sur terre, mais pourtant, pour le Seigneur. Ce sont des hommes qui ont amassé, des hommes riches. Riches pas parce qu'ils sont morts.
Ils ont investi leur propre vie.
Voilà. C'est pas parce qu'ils avaient des voitures, ils avaient des biens terrestres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'en avoir, mais surtout parce qu'ils ont travaillé pour ce qui est éternel. Et Jésus-Christ a fait beaucoup de remarques à certaines personnes par rapport à ceux qui surtout ne cherchaient qu'à s'enrichir eux-mêmes.
L'argent ici sur terre.
Et oubliant qu'en travaillant pour le Seigneur, en soutenant l'œuvre de Dieu, par exemple, avec les richesses, ils seraient aussi en train de s'amasser des grands trésors dans les cieux. Je lis Luc 12. Je suis au verset 21.
Oui.
Une remarque que le Seigneur a faite à cet homme riche. Mais je vais commencer au verset 16 pour donner une idée.
Je t'en prie.
Voilà. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. Tu sais, dans ce texte, hein, je m'arrête un peu, ce qui attire un peu mon attention, c'est le fait que cet homme est, je dirais, égocentrique. Il parle plus de lui. Voilà ce que je...
Tout est centré sur lui-même.
Parce que tu vas voir chaque fois revenir le mot « je ».
Je dirai.
Je ferai, j'abattrai mes greniers. J'en bâtirai dans lui. J'en bâtirai de plus grande. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je... Toujours le jeu. Je dirais à mon âme, un égoïste, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois
et réjouis-toi.
Ça, c'est c'est l'attitude de beaucoup d'hommes. C'est-à-dire, je dois me reposer, je dois manger, je dois boire, je dois me réjouir dans ce monde, c'est ce qu'il faut faire.
Mais c'est pas une mauvaise chose.
Oui.
Mais il ne se limite que là.
Voilà, ce qui est mal. Mais regarde la réponse de Dieu. Mais Dieu lui dit.
Insensé.
Voilà. Selon les hommes, il est un homme sage. Mais pour Dieu, il dit, tu es insensé.
Il a suffisamment épargné. Il a suffisamment fait de l'argent.
Voilà.
Il s'est amassé des biens pour les vieux jours.
Mm-hmm.
Mais Dieu dit, insensé.
Très important.
Si tu m'aimes, ton âme te sera redemandée.
Mm-hmm.
Et ce que tu as préparé,
voilà.
pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qui n'est pas riche pour Dieu. Le problème de cet homme, c'est qu'il n'y avait que lui. Il ne voyait que les choses de cette terre. Il ne voyait pas l'avenir. Dieu n'est pas contre le fait que nous possédions des voitures, des maisons, des entreprises, des bateaux, des navires, des avions, des compagnies aériennes. Il n'est pas contre. Mais pour qui êtes-vous riche? Est-ce seulement pour vous? Le « vous », c'est quoi? C'est votre femme, ce sont vos enfants, ce sont vos voisins, je ne sais pas, les clans de la famille. Ça, c'est vous. Mais pour Dieu, êtes-vous riche? Et je suis pas étonné d'apprendre des histoires du genre, un homme qui dit, Seigneur, j'achète cette entreprise à perte. Mais je prends l'engagement de toujours payer 10% de tout ce que je gagne, que ce soit en perte ou en bénéfice. Ça ne m'a jamais étonné d'apprendre que ce genre de personnes, quelques années plus tard, deviennent tellement riches que 10%, ils trouvent que c'est trop peu. Ils vivent maintenant de ces 10% et le reste, ils donnent à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a été impliqué dans son affaire.
Voilà.
Dieu, entre guillemets, je vais dire, s'est retrouvé.
Mmh.
S'est retrouvé dans, dans les affaires, dans l'entreprise de ce monsieur. Soyons riches pour Dieu aussi.
Très important. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Soyons riches pour Dieu. Nous devons investir pour être riches pour Dieu. Et tu sais, quand je vois ce texte, cet homme était égoïste, mais le Seigneur veut qu'on pense aussi, pas seulement à la terre, mais surtout à l'éternité, en investissant, en soutenant l'œuvre par nos moyens. Ceci m'amène à voir aussi la manière dont nous orientons nos prières. Hein? Pour ceux qui prient, par exemple, « Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, fais en sorte que mes entreprises aillent de l'avant. » Il faudrait que dans nos prières, que le Seigneur se retrouve. C'est très important. Parce que si ce n'est pas le cas, parce qu'ici, c'est clair, on s'amasse des richesses pour nous, mais on n'est pas riche pour Dieu. Et nous avons lu que celui qui s'empare des âmes, c'est lui l'homme sage. C'est très important. Je lis Jacques chapitre 4, versets 2 à 4. Là, je vois un peu comment la plupart des personnes prient.
Jacques 4.
Oui, le verset 2 jusqu'au verset 4.
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Mm-hmm. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles, des luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez pas.
Voilà.
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions.
Ah oui, oui.
Je continue.
Vas-y.
Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami de Dieu, du monde, se rend ennemi de Dieu.
Très
important. Croyez, chantez, oui.
Très important ce que Jacques, le frère de Jésus, a dit. Vous, le verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Oh Seigneur, donne-moi ceci, parce que ce qui est important, c'est toi d'abord. Mais Dieu veut se retrouver.
Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Tu ne reçois pas parce que Dieu voit dans ton cœur que non, si je te donne ce travail, tu vas te retrouver en dehors du royaume de Dieu.
Voilà.
C'est qu'il y a certaines personnes, ils sont chrétiens tant qu'ils ont des difficultés. Mais dès qu'ils sont des difficultés, c'est fini. D'autres sont chrétiens tant que tout va bien. Dès qu'il y a un problème, c'est fini, on abandonne Dieu. Dieu ne se retrouve pas dans la vie de certaines personnes parce que ils sont tournés vers eux-mêmes. Ils ont du mal à aller de l'avant parce que Dieu ne se retrouve pas.
C'est très important. Dieu veut que, au-delà de tout ce qu'il va nous donner, que nous ayons une pensée première pour l'avancement du royaume. Le Seigneur Jésus-Christ en venant, qu'est-ce qu'il disait? Il parlait du royaume. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et le reste vous sera donné. Il ne voulait pas dire que les gens ne travaillent pas. Non, il voulait juste dire, au-delà de tout, pensez d'abord au royaume. Avec ce que nous pouvons faire en le soutenant avec nos moyens.
Que tout Dieu soit loué. Tout à fait, Junior. Que Dieu te bénisse pour cela.
Amen.
Et au moment où nous sommes en train de finir l'émission d'aujourd'hui, je voudrais faire une sorte d'appel à la repentance. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas riches pour nous-mêmes. Amen. Sinon, nous sommes des insensés. Amen. Un insensé, c'est un fou aux yeux de Dieu. Un insensé, c'est quelqu'un qui est perdu devant Dieu. Mais soyons riches pour Dieu. Dieu veut se retrouver aussi dans nos richesses. Il n'est pas contre que nous possédions des milliards de dollars, mais il veut aussi qu'il se retrouve. Et il se retrouvera comment? Lorsque vous aussi vous vous impliquez dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher, à aller en Chine, en Thaïlande, en Inde, mais nous pouvons soutenir ces hommes et ces femmes qui ont reçu cet appel. Nous pouvons soutenir les radios, les télévisions chrétiennes, les ministères qui propagent l'évangile au travers des médias. Nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous pouvons travailler avec eux. La Bible parle d'être co-ouvriers avec Dieu dans le champ missionnaire.
Amen.
Mon frère, ma soeur, si ce message vous a touché, que vous voulez demander pardon à Dieu et que vous voulez prendre l'engagement d'être fidèle comme ouvrier avec Dieu dans son champ missionnaire, c'est très simple. Baissez simplement la tête dans la prière. Vous allez répéter ces simples mots après moi. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. Je te demande pardon. Pardon parce que j'ai été infidèle. Pardon parce que je n'ai pas été ouvrier avec toi dans l'œuvre de Dieu. Je prends l'engagement maintenant et jusqu'à la fin de ma vie de toujours soutenir l'œuvre de Dieu. Dirige-moi, guide-moi, montre-moi où tu me veux comme soutien et je m'engagerai pleinement. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je crois et je confesse que maintenant tu m'as pardonné et que je prends un nouveau départ avec toi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Et merci de prendre l'engagement, encore une fois, d'être fidèle dans ce que vous venez de dire de votre propre bouche. Pour toute question spirituelle, vous pouvez joindre notre ministère, le ministère Jésus pour tous, au +243 819 910 910. Je répète, au +243 819 910 910. Ou vous pouvez visiter notre site internet www.jesuspourtous.org. Je répète, www.jesuspourtous.org. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. Je suis Raphaël Mambou. Je recevais Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir. Que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Toujours sur le même thème, l'évangélisation.
Amen. Que Dieu vous bénisse.
Au revoir.
Au revoir.